إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله مع موضوعنا، موضوع أهمية العلم الشرعي في حياة المسلم، ومع استخراج ما نستطيع من الفوائد من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية. وهذا محاولة لمسايرة كتب السلف، معرفة العلم الشرعي عن طريق كتب سلفنا الصالح. فالحركات المعاصرة تحاول دائما أن تظهر وتلمع مفكريها أو دعاتها، ومتسميهم بالمصطلح مفكرين أو الدعاة الإسلاميين. وهذا المصطلح لا يتمشى مع مصطلح العالم الشرعي، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعني العلماء شكون هما اللي ورثوا يعني ميراث النبوة والهدى والرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يرثون هذا الميراث اللي هو العلم الشرعي هم العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء. إذن لا يوجد هناك مصطلح تاع مفكرين إسلاميين، يعني هذا المصطلح الجديد يعني إنسان بعيد على، كأنه يوحي بأن هذا الذي سوف يتكلم من فكره هو مسلم. مش نفهم يعني مفكرين إسلاميين، المفروض في هذا الدين اللي يتكلمهم العلماء الشرعيين، العلماء الذين يتكلمون وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه الحركات المعاصرة لم تتشبع بما جاءها من تراث سلفنا الصالح، فهي حاولت أن تعوض ذلك بنتاج دعاتها ممن تسميهم بالدعاة والمفكرين، عوضا عن الأخذ عن سلفنا الصالح وعن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وكأن هؤلاء العلماء لم يتكلموا، أو كأن هذا الدين فيما سبق لم يتكلم في المسائل التي يواجهها المسلمون اليوم. فكثير منهم لما يصف الدين يقول هو دين والإسلام هذا صالح لكل زمان ومكان كذلك، ثم ترى كأنه اليوم يرجع إلى مصطلح المفكرين أو الدعاة هؤلاء، كأننا يعني كان هناك بطر بين ما جاءنا من ميراث عن سلفنا الصالح وعن أحوال اليوم وعما يتكلم فيه كثير من المسلمين، كثير ما يخوض فيه المسلمين اليوم، والذي هو بعيد عن التأصيل الشرعي، يعني الأخذ من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. donc j'ai dit qu'on est en train de traiter la question de l'importance de la science dans la vie du musulman et cela en essayant de tirer le maximum de profit du livre qu'a écrit l'imam Ibn Qayyim مفتاح دار السعادة، où il a cité, il a essayé de rassembler ce qu'il a pu comme texte concernant, qui montre l'importance de la science. Et on a dit cela on étudie cela dans le sens d'essayer de vivre avec les livres de nos salafs, de nos ulama, en faisant cela, pour se démarquer de ce que certains mouvements aujourd'hui essaient de diriger les musulmans vers le fait d'écouter de ce qu'ils appellent les penseurs musulmans ou les philosophes musulmans. C'est comme si qu'on avait ce terme dans notre religion. Dans notre religion, on n'a pas de penseurs, on n'a pas besoin. Pourquoi aurait-on besoin d'un résultat d'une pensée alors qu'on a devant nous une religion qui vient d'Allah Azza wa Jal? C'est une révélation. On a à l'étudier, on a à apprendre ce qui nous vient de nos salafs salih. On n'a pas besoin de penseurs ou de philosophes. L'islam a toujours combattu toutes les philosophies qui viennent des Grecs et des Romains et de tous les hommes, etc. Et on n'en a pas besoin. On a une religion, un chemin qui est tracé par Allah Azza wa Jal, défini dans le Coran et dans la Sunna. C'est un héritage qui nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cet héritage, al-ulama'u warathatu al-anbiya, c'est les savants qui prend cet héritage. C'est pas des penseurs, c'est pas des philosophes qui prennent cet héritage. C'est les savants, et la notion de savant, elle est liée au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme ces mouvements contemporains n'ont pas eu assez ils n'ont pas donné assez d'importance au bagage, à l'héritage qu'on a reçu de nos salafs salih, et ils ont pensé que cela n'était pas suffisant pour faire face aux problèmes auxquels font face aujourd'hui les musulmans, et ils ont essayé de faire apparaître les écrits ou les pensées de certains qu'ils appellent penseurs musulmans ou philosophes musulmans pour faire face un petit peu à ce que l'Occident prétend sur l'islam, etc., ou pour montrer, soit disant, ce qu'ils prétendent comme étant le vrai visage de l'islam. Et tout cela, loin de l'héritage qu'on a reçu dans nos salafs salih. Et même dans, comme on a dit dans certains des cours avant, quand on revient au tafsir du Coran, il nous dirige vers le livre Fidlal al-Qur'an, en essayant de montrer que ce livre-là fait des choses ou a expliqué le Coran de façon extraordinaire. Alors que celui qui étudie ce qu'on a reçu dans ce salah, et tout ce Ibn Kathir, ou tout ce des savants qui est basé sur le Coran et la Sunna, sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est bien loin. C'est vrai qu'il a de belles phrases et qu'il y a c'est un livre qui est plus proche de ce qui est littéraire et encore que de ce qui est shara. Il a même refuté certaines choses qui étaient connues dans le hadith quand il a essayé d'expliquer al-ladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Il a philosophé autour de ce verset pour savoir, parce que le husna c'est jannah, et Allah Azza wa Jalla dans ce verset il a dit pour ceux qui ont fait ce qu'il faut dans le hayat al-dunya, ils auront ceux qui ont eu le mérite de faire les bonnes actions dans le hayat al-dunya, et ils seront récompensés par le paradis, et plus. Et qu'est-ce qui est plus que le paradis? Donc là, celui qui a écrit de là, il est parti à gauche et à droite, il a essayé de philosopher dans le sens que, il a essayé de donner une certaine explication, alors que le hadith, il est simple. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a montré que ziyada, c'est le fait de, vous la connaissez, c'est le fait de voir le visage d'Allah Azza wa Jalla. Quand, les gens au paradis, ils sont au paradis, Allah Azza wa Jalla leur demande, je vous ai tout donné, oui, vous êtes content de ce que vous avez, je dis ça d'une façon globale. Et ils disent oui, il a dit, je vous rajoute, ils lui disent, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter de ce qui est plus que ce qu'on est? Et donc Allah Azza wa Jalla leur apparaît, ils vont voir Allah Azza wa Jalla dans le paradis, le fait de le voir, c'est un paradis plus que le paradis dans lequel ils sont en train de vivre. Donc ça c'est Ru'yatullah Azza wa Jal, et chez Al-Sunnah on dit Ru'yatullah Azza wa Jal, elle est possible, jour du jugement dernier, dans le paradis, elle n'est pas possible dans la vie d'ici-bas. Dans la qida qu'on a, dans la croyance qu'on a, on ne peut pas voir Ru'yatullah Azza wa Jal dans la vie d'ici-bas, mais on le voit, Inch'Allah, que Allah Azza wa Jal nous facilite, le jour du jugement dernier, et c'est parmi les récompenses de ceux qui font salat subh d'une façon assidu. Hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour où la lune était pleine, il a dit, vous allez voir, vous allez voir Allah Azza wa Jalla, le jugement dernier, comme vous voyez cette pleine lune. Et vous n'aurez pas besoin de vous pousser pour le voir. Et il a, Rasulullah sallam a conduit hadith, il a dit, فَمْنِ سَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُغْلَبَ عَنْ صَلَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَلْيَفْعَلْ. Et donc celui qui peut parmi vous ne pas paraissait à faire une prière derrière la prière avant le coucher du soleil qui est Salat l'Asr et la prière qui est après le lever de la levée du soleil qui est Salat al-Fajr, hein, qu'il le fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la récompense d'être assidu à ces deux prières qui sont certes difficiles, je ne sais pas si on peut me contredire sur ce point-là, que Salat Subh n'est pas aussi simple, surtout dans le pays de Kufa dans lequel on est en train de vivre. Déjà, l'Ombled, avec tous les dèmes qu'on entend, et beaucoup d'entre nous ont du mal à se réveiller. Aujourd'hui, avec tous les types de réveils, tu peux mettre un réveil, Shaitan, il le met dans une bonne partie de ton rêve, et ça va t'aider à encore mieux dormir. C'est difficile, le fait de se lever en plus dans un système qui ne donne pas d'importance aux horaires des prières. Les horaires de travail ne suivent pas les horaires de prière, donc c'est un peu difficile. Ça, c'est parmi les récompenses de ceux qui font ce qu'ils peuvent dans le bon sens, le fait d'être assidu aux prières, surtout la prière de Salat Subh. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à y être assidu. C'est un droit que je fais pour moi et pour tous ceux qui entendent, Inch'Allah. Et donc, on me dit qu'il faudrait faire attention à cette notion, yani de ce qu'on trouve aujourd'hui dans la bibliothèque islamique. Beaucoup de livres, ceux qui nous présentaient les livres, ça fait une vingtaine d'années, ils présentaient que les livres des contemporains. Et beaucoup de ces contemporains n'ont le grade que de penseurs, comme Abu al-A'la al-Maududi ou Sayyid Qutb ou d'autres, je l'ai cité, yani nous ont présenté pas mal de gens qui ont écrit sous ces noms de penseurs et de philosophes musulmans, alors que on devait plutôt s'occuper de l'héritage qui nous vient de notre salaf. Et le fait est tel que beaucoup de gens, peut-être avec bonne intention, pensaient faire bonne chose en allant sur ce chemin-là, mais ils se sont trompés. Et leur erreur vient du fait qu'ils n'ont pas maîtrisé la science de cette charia, hein, la science de cette religion. Et la notion, l'importance de la notion de savant, qui devrait être le guide de la nation. La nation musulmane devrait être derrière les savants. Si on ne suit pas, si on ne sait pas le chemin qu'on a à suivre, on n'a qu'à poser la question aux savants. Ça veut dire que la structure d'une nation, de sa marche, il faut qu'elle soit derrière l'ensemble des savants qui représentent les héritiers du prophète à chaque temps. Il n'y a pas un temps où il n'y a pas des savants qui prennent cet héritage du prophète. Soit le nombre il est important, soit le nombre il est réduit, mais ils existeront toujours. Ils le représenteront toujours. C'est une continuité, c'est une continuité qu'Allah Azza wa Jalla a garantie pour cette nation lorsqu'il a dit « Nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu muhafidun ». Le fait qu'il n'y ait pas de savants, c'est le fait que cette religion, il n'y a plus de ceux qui la représentent ou ceux qui la défendent. Donc il n'y a pas de possibilité de telle sorte qu'il n'existe pas de savoir à un certain moment qui sont les héritiers du prophète et qui sont ceux qui parlent au nom de la religion, qui ont le droit de parler au nom de la religion, c'est les savants. Et tous ceux qui parlent au nom de la religion devraient être des savants ou ceux qui écoutent et suivent les savants. Et ça, c'est un axe important dans le chemin de suivre Salaf Saleh. Hein, on suit, nous savons. Et on ne sort pas ni d'idées, ni de façon qu'on voit avec laquelle on va revenir à notre à la force armée musulmane, ni le fait de voir des chemins autres que par le fait de revenir aux savants qui nous indiquent le droit chemin. Et tous ceux qui parlent en dehors de cela et qui ramènent des idées, même si elles paraissent des idées bien construites ou etc., cela, on ne peut pas les prendre. Nous, on ne prend que des savants parce que c'est eux qui ont pris l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shaitan, dans ses ambiguïtés, il peut te construire des idées, et avec la faible intelligence qu'on a, le faible savoir qu'on a, on peut être ébahi par certains beaux raisonnements et belles paroles. Hein, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, inna min al-shi'ri al-hikma, inna min al-bayani, le sihr. C'est-à-dire des gens qui arrivent avec de la poésie à dire des sagesses, et il y en a qui arrivent avec leurs belles paroles, leurs belles phrases, à faire comme à ensorceler ceux qui les entendent tellement ils s'expriment bien et ils arrivent il a montré qu'il y a un non-sorcellement hein, qui peut être on peut être ensorcelé lorsqu'on écoute certains qui savent dans le bayan le fait qu'ils essaient de montrer hein, d'exprimer leurs idées qui sont très éloquents lorsqu'ils parlent de telle sorte qu'ils arrivent à influencer leur entourage. Et ce qui nous intéresse, nous, dans tout ce qu'ils disent les gens, c'est ce qui est ramené par les savants, c'est ce qui est lié au Coran et à la Sunna. Même si c'est fait par des gens qui ne sont pas très très éloquents. L'éloquence, le fait de mettre des belles phrases n'a pas d'importance par rapport au fait de savoir la source de ce qu'on est en train de citer comme idée ou comme hukm par rapport au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Qayyim a cité plus de 40 versets où il a déduit l'importance de la science, et là il rentre dans le fait de citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça représente la deuxième partie du cours de l'importance de la science, maintenant tirée de la sunna du prophète, mais sahih et sunna. Et donc il a cité le premier hadith qui était, qui est-ce qu'il peut me le rappeler? Je sais qu'il y en a qui sont assidus, donc suivi de notre cher cours. Hein? Premier hadith qu'on a cité, on a cité la semaine dernière et la semaine d'avant. Et j'ai une fâcheuse habitude de trop me répéter. Masha'Allah. Barakallahu fik. Man yuridi illahu bi khayrin faqihu fi din. Donc, Ibn Qayyim, il a commencé par ce hadith en premier. C'est le premier hadith. C'est parmi les premiers hadiths que cite l'imam al-Bukhari. Fi bab fadl al-ilm. Donc, l'imam al-Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, il commence par quel bab? Il a son livre, et chacun son livre, il l'a mis sous des chapitres. Hein? Donc le premier chapitre qu'a cité l'imam Bukhari, c'est quel chapitre? Donc c'est le chapitre Abd al-Wahi, le commencement de la révélation. Et le premier hadith qu'il a cité, c'est le hadith Omar ibn al-Khattab, Innam al-A'malu biniyat. Après, il a cité comment le Wahi descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama derrière ce choix de l'imam al-Bukhari ont mis beaucoup de raison. Ibn Bukhari l'a mis dans le hadith Innam al-A'malu biniyat pour dire que le niyat est important dans la science, etc. Pour montrer l'importance de la niyat, et après il a cité Bid al-Wahi parce qu'en réalité, le fait de croire au prophète, ça fait partie des choses qui font partie de l'invisible, l'imam bil-ghaib. Et donc, alors que le prophète, les gens ils l'ont vu, mais ils ont vu sa présence matérielle. Mais ils n'ont pas vu comment le wahy descend. Tout ce qu'ils ont vu de le wahy, de la révélation qui descend, c'est des signes qui étaient des signes extérieurs. Et c'est pour ça que les moussassouqins disent que le prophète rentrait dans un état second, où ils essaient de dire qu'il était... Je ne vais pas répéter ce qu'ils disent. Mais faisait-il que l'imam Bukhari a donné l'importance au sens de montrer que la révélation elle venait, quand elle venait, il y avait des signes. Quand le wahy descendait, c'est le prophète. Pourquoi c'est important de le citer? Parce que c'est ça la liaison entre le prophète et la révélation qui est descendue sur lui. C'est ça, ça c'est important à comprendre après la cité Kitab l'Iman, après la cité Kitab Bab l'Ilm. le chapitre de l'ilm, dans lequel il y a le hadith, man yurid le professeur sallam, il a dit le hadith, man yurid illahu bi khayran, yufaqqihu fi din. Et après le deuxième hadith, sur lequel on est, qu'on a cité, c'est là où le prophète, il donne un exemple. Inna masala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm. Et le fait d'utiliser le mot masala, c'est montrer que c'est un exemple qu'il va donner, ou c'est, le mettons en français, c'est une parabole, c'est ça? La traduction. Donc il va essayer de c'est-à-dire, dans ce hadith, Rasulullah sallam, il nous montre, l'exemple de ce wahi qui, de cette révélation qui est descendue sur lui, et lorsqu'il la propage à ceux qui sont autour de lui, comment ils vont la recevoir. Hein, les types de gens, comment ils seront quand ils vont recevoir le wahi. Et donc il a dit, إِنَّ مَثَلَ مَنْ بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا. Donc il a donné l'exemple de cette révélation par une pluie. La pluie, elle a plusieurs utilisations dans la langue arabe selon le fait qu'elle soit forte, qu'elle soit bénéfique, qu'elle ne le soit pas, etc. Et là, le ghayth, c'est la pluie qui est forte, qui est bénéfique. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est forte et elle est bénéfique et elle est valable pour tous les temps. C'est-à-dire, il a donné le mot yani ghayth pour montrer que cette sharia, elle peut satisfaire n'importe quelle situation à partir de du moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'au jour du jugement dernier. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas trouver de solution à des questions aujourd'hui, ou demain, ou au 25e siècle, ou je ne sais pas quoi. La sharia a dit, elle est valable jusqu'à la fin des temps, et elle a, dans ses textes, ce qu'il faut. Soit d'une façon qui est directe, hein, il parle de la chose directement, soit d'une façon qui est indirecte, ou qui rentre dans le sens. Hein, parce que sharia, on englobe ce qui est dit directement par les textes et ce qui est dit d'une façon indirecte. Mais c'est de l'oublier. Hein, comme Abou Khattab il explique le sens du mot khamr, pour le khamru, ma khamr al-aql, donc tout ce qui enivre rentre dans le hukm de le khamr. Parce que bon, si tu veux énumérer tous les produits qui peuvent enivrer, il te faudrait peut-être une encyclopédie. Tellement il y en a. Donc là, il a donné la règle générale. Dit, tout ce qui est enivre et a le statut de l'alcool. Ou du vin. C'est ça. Donc il a montré que ceux qui reçoivent cette science, ils sont de trois types. Les premiers, c'est une terre qui reçoit l'eau et qui fait pousser autour d'elle le kala ou l'ajb. On a fait la différence entre kala ou l'ajb. C'est quelle différence qu'on a fait? On a dit le kala, ça englobe ce qui est végétation, oui. Et là, la végétation, la sauce sallam, il a utilisé falal. Ceux qui ont donné le sens dans la langue arabe du mot kala et ujb, c'est que le kala, ça englobe ce qui est tendre et ce qui est sec. C'est ça. Et le ujb, c'est ce qui est tendre. Donc là, c'est le fait de citer, de citer le particulier après avoir cité le global. Ça, ça existe dans la phrase. Là, il cite le particulier, le global, après il cite une figure particulière de ce global qu'il a cité en premier. Donc il y a la notion de rotb ou yabis. Rotb, c'est ce qui est, yabis, ce qui est sec, et rotb, c'est le contraire de ce qui est sec, c'est-à-dire humide. On peut dire mou, voilà. Oui, tendre, on est plutôt ratb, c'est. Oui, parce que tous les deux ils contiennent de l'eau, malgré qu'il soit un peu sec, mais ils contiennent. Hein? L'eau, elle y est partout. Donc, il a dit, ça montre la richesse des savants, c'est-à-dire c'est quoi les savants quand ils reçoivent cette science, cette révélation, ils font pousser tout de suite, ils font sortir l'ahkam de cette science. Hein? Et ils font sortir tous les types de l'ahkam possible, yani de, qui concernent notre vie, d'ici-bas. Et il a cité une deuxième type de terre, c'est la terre qui retient l'eau, mais qui ne fait pas pousser la végétation. Mais malgré ça, les gens profitent de cette eau, c'est-à-dire ils boivent de cette eau, ils l'utilisent pour irriguer ce qu'ils... leur agriculture. Hein. Donc ça c'est une terre, c'est ceux qui viennent en dessous des savants, ceux qui prennent cette science, mais et qui la transmettent, mais qui n'ont pas le statut de qui peuvent tirer des enseignements de cette science. Les savants, hein, et ceux qui suivent les savants à la bête l'ilm. Et après, il a cité un troisième type de terre, c'est celle qui ne retient ni l'eau et qui ne fait pousser autour d'elle aucune végétation. Alors si on voit aujourd'hui, yani avec l'exemple que nous a donné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si on se met dans son repère, autour de nous, il n'y a qu'un désert. On est on vit dans une sécheresse, surtout dans ce pays, yani en France. Hein. Alors les gens qui reçoivent le shara et la ibessade des ulama autour de nous, yani ici en France, moi je ne connais pas spécialement. Et ceux qui profitent de cette science, qui essaient de la transmettre, sont aussi rares. Et quand on regarde ce hadith, on aimerait bien être dans le premier type de terre. Hein. On aimerait bien espérer, mais c'est un degré qui demande beaucoup d'efforts et qui demande beaucoup d'apprentissage et qui demande beaucoup de temps. Et ça, c'est le degré de ceux qui arrivent à être parmi l'élite, parmi les savants. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de notre himma qu'elle soit pour ce degré-là et qu'il nous aide sur ce chemin-là. Pour l'instant, on essaie de transmettre le peu qu'on sait, on essaie d'en profiter et de faire profiter nos frères. Après, Ibn Qayyim, il revient quand même il cite, pour consolider le sens qu'il y a dans ce hadith, des versets qui s'y rapprochent. Il cite, قول الله عز وجل, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. Donc il cite la ayah numéro 17 de surat Ra'd. Ra'd, c'est le tonnerre, c'est ça, non? C'est pas l'éclair. Non. C'est le tonnerre. Et l'éclair, c'est, en arabe, c'est le barak. On avance. On avance dans la langue arabe. Hein? Chaque fois, on apprend un nouveau mot. Hein? Donc Ra'd, c'est le tonnerre. Et donc, dans ce verset, l'Azrajal, il dit qu'il a fait descendre min al-sama ima'an. Donc, c'est Ibn Qayyim. Il ramène les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il le consolide par ce verset parce qu'il y a le même sens. Hein, les textes de l'Wahy, ils vont dans un sens qui est convergent et non divergent. Et donc, ici, ce verset, Anzala min al-sama ima'an, fa sa'alat awdiyatan bi qadariha. Donc, il a fait, l'Azrajal, il dit qu'il a fait descendre du ciel de l'eau. Hein? Et dans un autre verset, il dit Anzalam Sakvesh Ma'an Tahura, c'est ça? La caractéristique de l'eau, hein, c'est qu'il est plus que pur. Hein, en France de dire qu'il est pur, c'est pareil. Mais l'eau, il est tahour. Il a un degré plus fort que pur. Hein? C'est quoi le sens de tahour? Quel est le sens qui est en plus par rapport à Tahir et Tahir? Non, c'est qu'il est pur et qu'il le rend autre chose aussi pur, qu'on l'utilise pour se purifier. Parce que le lait et le... Il y y a beaucoup de produits qui sont purs en eux-mêmes et qu'on ne peut pas utiliser pour se purifier. Donc on dit que le lait il est pur, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire les ablutions. Tandis que l'eau, il est pur en lui-même et on l'utilise pour se purifier. Donc c'est un sens plus fort que le petit tahour, c'est plus fort que tahir. Et donc il a dit, Allah Azza wa Jal dans ce verset, il a fait descendre de l'eau du ciel et il y a beaucoup de rivières qui ont coulé à partir du fait que cette eau est descendue du ciel. Audiyatan biqadariha, selon sa capacité, son volume. Chaque rivière, l'eau y coule selon ses capacités. Ibn Qayyim il a dit, شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء. Donc Allah Azza wa Jalla a donné l'exemple de ce qu'il a envoyé comme révélation, comme l'exemple de l'eau qui fait descendre du ciel. لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة. Parce que à partir de ces deux choses, de la révélation et de l'eau, il y a la vie. L'eau elle donne la vie, qui est la vie matérielle, et la révélation elle donne la vie qui est la vie spirituelle, c'est ça, la bonne vie. On ne peut l'avoir qu'à partir du fait de comprendre cette révélation qui nous vient de l'Azza wa Jal. Une personne qui vit dans cette vie sans qu'il sache pourquoi il est en train de vivre, il est perdu, il ne vit pas, parce que bon, il a beau manger, boire et faire autre chose, il arrive à un moment, il se dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il arrivera toujours, même s'il suit les jouissances de cette dunya, à un moment, il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas où je suis. Parce que tu ne vas pas manger toute ta vie, tu ne vas pas boire toute ta vie, et tu ne vas pas faire autre chose toute ta vie. Et donc, il arrivera, c'est un des moments où le fait de suivre la route des jouissances, il se pose des questions, et à quoi sert sa vie? Pourquoi il est en train de vivre, quel est le but, etc. Celui qui ne sait pas cela, il est perdu. Imagine une scène, il vit, tu es en train de rouler, tu ne sais pas d'où tu viens, où tu pars, pourquoi tu es sur ce chemin, mais tu roules. Hein, comme a dit un des poètes, « J'ai-tu l'a'alamu min aïn, ou l'akini a'titu, ou j'ai-tu quddam et tarifan, fama shaytu, ou l'imada j'ai-tu, l'estu adri, ou l'imada l'estu adri, l'estu adri. » C'était un chien qui l'a dit, un chien. Je suis venu, je ne sais pas d'où, et j'ai trouvé un chemin devant moi, donc je suis en train de marcher, et pourquoi je suis en train de marcher comme ça, je ne sais pas, et pourquoi je ne sais pas, je ne sais pas. C'est toute une ignorance, des degrés d'ignorance qui sont au-dessus d'elle. Et c'est un petit peu la vie de beaucoup de gens qui nous entourent. Pourquoi ceux qui n'ont pas cette religion, ils pensent au suicide, ils savent pas pourquoi ils vivent, et des fois ils suivent des chemins complètement farfelus. Parce que comme l'homme il a besoin de satisfaire ses besoins qui sont matériels, il a aussi besoin d'être équilibré dans sa spiritualité. C'est pour ça que beaucoup de sectes profitent du vide qu'il y a dans ces pays, surtout les pays tahoukou, pour pouvoir propager ce qu'ils ont comme idée, même si c'est faux, même si c'est des catastrophes, même si ça peut conduire à la mort. Ces gens-là, après tout, ils sont dans un vide, et vivre et mourir pour eux, même leur vie est une mort, puisqu'ils ne sont pas en train... Vraiment, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de vivre. Donc, qu'ils meurent ou qu'ils vivent pour lui, c'est la même chose. Il n'y a pas de goût à la vie qu'il est en train de vivre. Et c'est l'importance de la révélation qui nous vient de l'Azza. Là, on sait que l'Azza nous a créé sur un chemin, le droit chemin qu'on a à suivre, l'adoration qu'on a à faire. Et derrière cette adoration, il y a le fait qu'on se remet dans le bon contexte de notre création, et qui est l'adoration de l'Azza, et qui nous procure le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. Personne ne peut atteindre la jouissance qu'on peut avoir à travers l'adoration en suivant un autre chemin que l'adoration. Tu ne peux pas l'avoir. Ni'ma que connaît le musulman, cette joie de vivre que connaît le musulman lorsqu'il pratique sa religion, lorsqu'il pratique son adoration, tu ne peux pas l'avoir, la joie dans ton cœur, tu ne peux pas l'avoir en suivant autre chose, un autre chemin. Donc Allah Azza wa Jal, il a donné cet exemple en disant en donnant l'exemple à la science, à la révélation qu'il a envoyée comme source de vie et de bonne vie, si on peut utiliser ce terme. Parce que ça, cette eau, il y a derrière le fait que l'Azawajal envoie cette eau sur la terre, ni à tous les intérêts qui viennent après, à tous les types de végétation qui viennent et de la végétation, il y a tous les animaux qui suivent, comme dit l'Azawajal, l'eau, c'est la source de la vie matérielle. ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علم كثير. Donc après Ibn Qayyim il dit, donc dans ce verset qui consolide le sens qu'on a cité dans, qui a été cité dans le hadith, il dit que Allah Azza wa Jalla a donné l'exemple de ces rivières et il a dit فسرت أودية بقدرية, chaque rivière coule selon sa capacité, et il a donné par cela un sens à aux différents récepteurs qui reçoivent cette révélation, qui sont les gens, soit des gens de science, فَقَلْبٌ كَبِيرٌ يَسَعُ عِلْمًا كَثِيرًا, une grande rivière qui reçoit, qui peut faire passer beaucoup d'eau, كَوَادٍ عَظِيمٍ يَسَعُ مَعٍ كَثِيرٍ, et des petits ruisseaux. وَقَلْبٌ صَغِيرٌ إِنَّمَا يَسَعُ عِلْمًا قَلِيلٌ كَوَادٍ صَغِيرٍ إِنَّمَا يَسَعُ مَعٍ قَلِيلٌ. فقال تعالى فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. دونك سوسات ريفيير فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. C'est-à-dire que sur ces rivières, il y a des impuretés qui flottent, des feuilles, elles ne sont pas au-dessus de la rivière, elles sont zabada rabia, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de, qu'il est pris par le fleuve. Et ça, c'est l'exemple des choubouas, c'est-à-dire quand on a le fond de la rivière qui est rempli d'eau, qui est l'ilm, les choubouas, ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur du cœur? Ils sont à l'extérieur, ils sont au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la science qui prend la majeure partie de ce cœur. Donc ce cœur est rempli de science. Les choubouettes, ce qu'elles font, ils sont à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'effet sur le fond de ce cœur. Ils n'ont pas d'effet sur cela. C'est-à-dire que c'est un cœur de savant qui est rempli de science et les choubouettes, il les connaît juste pour les refuter. Ils n'ont pas un effet sur cette eau qui coule, sur la direction de cette eau qui coule, etc., ni sur le fond de ce fleuve ou de cette rivière. Tandis que si on n'a pas cette science, ça veut dire que le cœur il sera rempli de choubouettes et d'ambiguïté. Si tu n'as pas de dîme, qu'est-ce que tu as? Tu as une philosophie dans ton cœur, tu n'as rien du tout, tu es perdu. Tu n'as que les choubouettes. Que les fausses idées. فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما الله عز وجل va nous citer un autre exemple. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. Et parmi les choses que les méthodes qui sont utilisées pour faire les parures, c'est le feu. Et le feu, il prenait de l'or qui était impur ou dans son état naturel, il le mettait dans l'eau, il le faisait brûler jusqu'à ce qu'il arrive à ébullition. Et lorsqu'il devient liquide, ce qui est or pur, il reste en bas, et ce qui est impureté, il est sous l'eau. C'est ça le fitna. On dit tiftin. Tiftin dehab. Le fitna du dehab, c'est le fait de le faire liquifier pour sortir les impuretés. Parce que à chaque température, il y a une. C'est ça. Il y a un métal qui se liquifie, c'est ça. Et après, ils n'ont pas la même densité. Bon, on va rentrer dans un cours physique. Faites-le que l'Azawajal a dit, c'est ça le fitna. C'est comme le feu qu'on utilise pour purifier les différents métaux qui sont utilisés pour la parure, comme l'or et autres. Et ce qui est imputé reste en haut, et tandis que ce qui est pur, il est, c'est-à-dire, c'est lui qui transporte cette impureté. C'est comme l'eau dans une rivière qui transporte ce qui est au-dessus, comme les feuilles, etc.
وأخبر سبحانه أنه راعب أن يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه بل تشفى وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس في الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون.
Donc il a dit que les choubouhats ils restent au-dessus. Tant que le cœur il est rempli de cette science qui vient d'Allah Azzawajal, les choubouhats restent à l'extérieur du cœur et elle n'est pas à l'intérieur du cœur. À partir du moment où on rentre à l'intérieur du cœur, et ça devient un chemin que suit celui qui l'apprend cette choubha, hein, et qui s'y imprègne, son cœur il s'y imprègne, il sera parmi les choubouhats. Et il rentre dans ce qui est shirk ou ce qui est bid'ah, hein, dans l'innovation, parce que son cœur, il était vide. Et c'est ça le danger de rester dans un vide. Celui qui n'a pas de science, qui ne sait pas la science du Kitab al-Sunna, qui ne connaît pas la science qui permet de rester sur le droit chemin, il est vide, et à partir du moment où il est vide, il faut bien qu'il se remplisse de n'importe quel chemin. Ah, et le milieu où il n'y a pas les ulama, c'est le milieu où les différentes, ceux qui n'ont pas un poids du point de vue de la science, yani, qui et pousse, hein, parce qu'on voit les choubouhats que citent Yanni Dahbesh, ou les choubouhats que citent Yanni Shia, par rapport aux vérités qu'il y a sur le droit chemin, on se demande comment il y a des gens qui les suivent. Mais ils les suivent pourquoi? Parce que les cœurs n'ont pas été remplis de science. Shia, il va te ramener une choubouha, toi t'as rien du tout, tu connais pas c'est quoi les sahaba, le rang des compagnons du prophète, comment le sallam les a éduqués, etc. C'est quoi la position qu'il faut prendre par rapport à eux, c'est quoi les conflits qu'il y avait entre eux et que les cœurs n'ont jamais été, ne sont jamais divergés de leur temps et l'union dans laquelle ils étaient, les fétaines qu'ils ont connues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils ont supporté ce poids après la mort du prophète. Et le fait que c'est durant leur vie que l'islam s'est répandu, hein, malgré tout ce qui s'opposait à eux et tous les fitines qu'il y avait. Mais chéri, ils vont te ramener des textes, toi tu connais pas, et tu vas rentrer dans un domaine, ni deux, tu vas diviser du droit chemin, du sens, à partir du moment où t'es ignorant. Ils vont te ramener une ambiguïté toute prête, et toi t'as pas, tu connais pas la science. Ahbash aussi, ils vont rentrer par les attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'on ne peut pas laisser kamitli hiché, ils s'arrêtent là. Laisser kamitli hiché, et donc le fait qu'on dit qu'il est sur son trône, donc il est dans un endroit, et là vous êtes des anthropophores, je ne sais pas le terme là bizarre qu'ils utilisent, et vous êtes en train de rassembler Allah Azza wa Jal sa création. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il est au-dessus de son trône. Mais c'est l'Azza wa Jal qui l'a dit. Rahman wa al-Arshi Sawa, le nukri là, un salafina sali, ala wa artafa, comme il se doit pour lui. Hein, c'est pas parce que l'Azza wa Jal il a dit qu'il est au-dessus de son trône que c'est obligé que ça soit, que l'exemple, c'est l'exemple de sa création quand elle s'établit sur son trône. C'est pas la même chose. Et le verset, il est clair. Le verset avec lequel vous prenez comme démonstration, il y a la réfutation de ce que vous de ce que vous avancez, parce que dans le verset, j'avais eu l'occasion, moi je savais pas c'est quoi c'était l'Ahbash, c'était en 93 ou 94, je savais même pas c'est quoi c'était. Il est venu, il discute, il était tout chaud. Il est venu avec une cassette, il enregistrait, moi je savais pas. On m'a dit, il y avait quelqu'un, il avait une ambiguïté. Ils sont là, il y avait peu de gens sur la question de Ulu Allah Azza wa Jal sur son trône. C'est devenu normal. Yani. Et, j'ai trouvé quelqu'un avec des livres et tout, je dis, Mashallah. Il a commencé, etc. Allah Azza wa Jal, c'est Kamit Liché. Oui, je lui dis, Allah Azza wa Jal, c'est Kamit Liché. Mais continue le verset. Il est au-dessus de son trône, et les autres versets où Allah Azza wa Jalla dit Amitou men fi sama, an yakhsifa bikum al-ard. Ouais, il m'a dit, mais le sama, c'est les anges et tout. Puis moi je parlais normal, il y a des décontracté, je pensais pas que j'étais venu. Et il me dit la langue, je dis écoute, on est en train de parler d'un sujet qui concerne la religion, reste dans ton raisonnement et il ne faut pas sortir à gauche et à droite. Hein? Parce qu'en général, c'est Ahbesh, ça vient de Loubnan, etc. Ils viennent avec le lajet. Vous avez lajet takoum. Moi aussi, je suis algérien, j'ai lajet. Je parlais décontracté. Je ne suis pas venu pour faire une thèse de doctorat. Donc, je suis en train de parler d'un sujet. Il faut qu'on reste un petit peu dans le sujet. Toujours, quand ils rentrent dans des gens avec des choubouettes, ils essaient toujours de faire un petit peu le sujet. Je lui dis, verset, il est clair quand même. Allah Azza wa Jalla a dit, c'est qu'il met les échés, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, wa sami' al-basir. Comment tu vas expliquer ce mal basal alors qu'il a dit l'insan, l'azdojus qu'il a créé, hein? Soit l'insan, comment elle débute? Nous faisons l'insan, mais nous faisons l'amchage, nous faisons l'amchage, nous faisons l'amchage, nous faisons l'amchage. Donc, le sens de ce verset, l'aïsa kamit l'aïsa ou l'aïsa kamit l'aïsa, l'aïsa kamit l'aïsa fatili, c'est fa. L'aïsa kamit l'aïsa ليس كمثل سمعي سمع وليس كمثل بصري بصر وليس كمثل علوي علو أو استوائه استواء. Tu peux pas après bon j'ai cité le hadith al-Jariya, je dis le hadith al-Jariya où Rasoul sallam il dit Allah قال في السماء, moi je lui dis صححه الألباني, c'était un déluge. Albani l'a dit. Après bon, on était dans une mosquée éternelle. Ils te blairent, ils sont venus, ils nous ont dit, vous êtes des frères, calmez-vous, hein, aimez-vous, machallah. Et bon, on a arrêté la discussion là, ça sert à rien de discuter avec des gens qui sont pas venus avec le but d'essayer de voir la vérité. On discute avec des gens qui veulent arriver à une vérité, là on ramène des preuves, etc. Si tu discutes avec quelqu'un qui est borné, il veut que son résultat, tu vas pas arriver à, tu arriveras jamais à un résultat. C'est pour montrer yani, la force des choubouettes. Quand on parle des Habesh aujourd'hui, lorsqu'ils ramènent cela, les gens ils écoutent pas. Je suis connu yani, des gens, je leur dis oui, c'est fait Allah Azza wa Jal. Il me dit moi je crois en Dieu et après je veux rien savoir. Qu'il est des mains, qu'il n'est pas des mains. Comment ça tu veux rien savoir? Allah Azza wa Jal, il t'a envoyé une révélation et dans cette révélation, il s'est fait connaître à toi à travers des. À nous à travers des noms et attributs. Toi, tu me dis, non, moi, je veux pas. Je crois en Dieu et je veux pas savoir. Azouji, il a dit. C'est dans le Coran. Il t'a montré certains de ses attributs, ses noms et ses attributs. Il faut qu'on les connaisse. On croit à Dieu comme le veut Dieu ou comme le veut nous. Ouais, comme on le veut. Bon, je voulais un petit peu. Hein, il faut croire en Dieu comme Dieu le veut. Pas comme moi je le veux, ni comme toi tu le veux, ni comme nous le voulons. Il faut qu'on croie en Dieu comme Dieu le veut. Voilà. C'est pour faire comprendre. Beaucoup de musulmans ils disent comme ça. Après, quand il y a une telle choubra, il n'arrive pas à y faire face parce qu'il s'occupe pas de la science. Il s'occupe pas. Il est occupé par sa vie de tous les jours. Il n'est pas là pour dire oui, Yadullah. Après, quand il continue devant un chéri, qu'il lui dise oui, Yadullah, c'est ni'mat d'Allah Azza wa Jal. Il apprend. Après tout, ça peut correspondre à l'indécence. Et c'est comme ça que l'aqida qui est fausse se propage dans cette nation comme se propage le feu dans la paille, sec. Et le fait que cette paille soit sec, c'est l'ignorance. Et l'héritage que nous a laissé notre c'est le salah, il est fort. C'est nous qui sommes loin et qui sommes ignorants, dans le sens qu'on ne s'occupe pas du fait de connaître notre aqidah, yani bien comme il faut. Et après, et des fois, nous, on apprend notre aqidah qu'à travers ces gens-là. À partir du moment où il y a une choubha, il faut aller, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, il a dit ça. Allez, je vais vérifier. Là, comment suit-il? Là, il me sort un hadith. Ça, l'insan, il devrait connaître sa aqidah indépendamment de cela. Il ne faut pas qu'on ait une aqida qui est réactive. À chaque fois qu'ils nous disent quelque chose, on va l'apprendre. Si jamais il n'y a pas une chouba sur une question, on ne l'apprend pas. On prend notre aqida avant que la chouba arrive, parce que la chouba, quand elle arrive, elle peut avoir un effet qui reste extérieur, comme elle peut avoir un effet qui peut t'influencer. Chouba, yani khatafa. Elle peut prendre ton cœur à partir du moment où tu évites. C'est pour ça que le fait que tu aies la science, c'est important. Et ne te dis pas que les choubouettes sont faciles à aborder.
Hein, et sans science, on peut les aborder facilement. Le shaitan, il va dire, oui, t'es intelligent, tu peux écouter tout le monde, tu peux écouter tel. Le choubhat peut t'emporter facilement. Ceux qui ont été emportés par les choubhat avant nous, ils étaient aussi intelligents, ils étaient aussi forts. Ils maîtrisaient en plus, des gens qui ont été pétés par des choubhat, ils maîtrisaient même le Coran, le hadith, etc. Et malgré cela, ils ont été pris par ces choubhat. Parce que ceux qui disent ces choubhat, ils ne les disent pas dans le sens que c'est contraire à la religion. Ils les disent, quand tu entends Habash, etc., ils te disent, oui, il faut que nous n'ayons Allah Azza wa Jal, il ne faut pas qu'on donne des attributs qu'il ne faut pas Allah Azza wa Jal, etc. Ils montrent ça comme ils viennent comme des gens qui défendent cette religion. Le Shia, quand il parle, il dit, oui, nous, on est avec Ahl al-Bayt, et c'est tout. Tout ce qu'on dit de divergent avec vous, Ahl al-Sunnah, c'est que le Khilafa, pour ceux qui sont les plus proches, entre parenthèses, le Khilafa, c'est Ali qui devait l'apprendre, c'est pas, radiallahu anhu, c'est pas Abu Bakr Siddiq, etc. Et après, il commence à tomber sur à critiquer Aïcha, radiallahu anha, et dire des choses qui sont... qui sort de la décence, yani. C'est des termes qui reflètent un petit peu l'intérieur qu'ils ont, de ceux qui ont fondé, yani, cette déviation, yani, le chiisme. Et après, on trouve, yani, un de leurs leaders aujourd'hui, qui écrit le doua Sanami Quraysh, un doua sur Abu Bakr Siddiq ou sur Omar ibn Khattab, qui dit, subhanallah al-adim, après certains non-musulmans viennent et disent, oui, c'est nos frères. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et il dit que ta mère, il lui donne tous les attributs négatifs connus, est-ce que tu l'acceptes comme frère? Tu l'acceptes pas. Si quelqu'un te dit, oui, je suis ton frère, mais je crois que ta mère, elle est... Et je cite pas, tu vas l'accepter. Tu vas lui dire, oui, tu es mon frère. Comment tu acceptes ça pour Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu l'acceptes? Alors que l'Azur, j'ai pour le taïbouna, le taïbet. Et dans le verset du Coran, il y a des choses qui refutent. Ils s'installent dans leur résidence. C'est un homme musulman, c'est qu'ils voient tout en rose. Même Shaitan, il leur donne la couleur qui fait de ce qu'ils ont. Tu dis, non, tu critiques. C'est eux qui critiquent. Toi, tu entends des gens qui sont en train d'insulter la mère des croyants qui Aïcha radiallahu anha. Après, tu me parles d'unité. Eh bien, il faut qu'ils effacent cela avant qu'on parle d'unité. Tu effaces cela. Tu reviens sur le chemin qui était l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle religion c'est que tu acceptes? Tu dis, voilà, là, je suis sur le droit chemin, alors que tu acceptes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui disent sur sa femme préférée, yani, autant de choses. Je ne veux pas, yani, citer l'exemple, parce que ça, ce qu'ils disent. Non. Non, mais bon, c'est normal. C'est, en plus, c'est un prophète, Allah Azza wa Jal, il y a eu une confrontation, yani, quelqu'un de Sunna avec un shahid, c'était aux États-Unis, je pensais. Ils ont dit, voilà, on va prendre que le Coran comme démonstration, pas de hadith. Alors, il était content, il a dit oui. Et l'autre, il a dit, bon, est-ce que tu crois à Allah Azza wa Jal? Oui, tu crois que Allah Azza wa Jal, il connaît l'avenir, etc. Oui, il connaît l'invisible, il connaît, d'accord. Il lui a dit, comment se fait-il que vous, qu'il ait dit sur Abu Bakr Siddiq, hein, il qala li, il sahibi. Et qu'il a laissé ça comme Coran, qui est cité jusqu'à la fin des temps, alors que vous dites qu'Abu Bakr Siddiq, n'était pas le bon exemple, le bon élève du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même vous le, comme il disait ici, vous l'avez kaffaré, vous l'avez donné tous les mauvais attributs. Quand il s'est arrêté dans la démonstration. Parce que l'haq, le Coran, il est derrière cette vérité. Le hadith de Rasulullah sallam, il est derrière cette vérité. Le fait qu'on est imprégné du Coran et de la Sunna, ça permet qu'on éloigne les choubouettes et qu'on les met à l'extérieur. Le milieu dans lequel on est en train de vivre, c'est un milieu qui est plein de choubouettes. Aujourd'hui, tu es là, surtout ici en France, tu vas trouver quelqu'un demain, il va te parler de Shia, l'autre il va te parler de l'Ahbash, l'autre il va te sortir un soufisme à l'extrême. J'ai un soufisme, tu es en train de manger une fois. Et quelqu'un était à côté, je ne sais pas quoi, il parlait d'une thèse sur...
C'est le Benoît Arabi, Benoît Arabi Soufi. Je lui dis, je n'ai pas pu me retenir. Je lui dis, il faut revenir quand même. Pourquoi vous étudiez ce Benoît Arabi Soufi en France? Vous ne faites sortir que les gens qui en sont pleins d'ambiguïté. Vous avez Benoît Taïmia, vous avez Benoît Taïmia, vous avez d'autres. Le Ilm Hada, il suit les ulama. Et je lui dis, Allah Azza wa Jalla a dit, اقرا باسم ربك الذي خلق ان خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم دونك لو دون امبورطونس لا سيونس ربنا عربي سو سوفيزم سي ان تي بو لي دي شيمين كي ديفيد دو فات كو سيت سيونس اون دو لا بروندر ا ترافير لامبرونتيساج Il m'a dit, toi, tu ne comprends rien du tout. Le sens de qu'Allah Azza wa Jalla il a appris par la plume, c'est pas le sens que tu es en train de citer. La hawla la quwwata illa billah. Il y en a des gens qui sont porteurs de choubra, surtout dans ces pays-là. Et on n'a pas le droit d'être, de vivre en étant ignorant. Donc ça, c'était un peu les deux exemples que Ibn Qayyim a voulu citer. Il a cité le hadith qui montre que la révélation, c'est comme Al-Ghaïs. Il est différent les trois types de terres qui la reçoivent. Et après, il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla donne aussi l'exemple de cette révélation comme étant comme la pluie et ceux qui la prennent comme des rivières et chacun y prend selon sa capacité. Et le fait de comprendre les exemples qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, c'est quelque chose d'important. Le Père Azza wa Jalla lui dit « وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » الوجه الثالث والأربعون في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه c'est toujours علي بن أبي طالب avec le ce qui vient après رضي الله عنه le fait de dire كرم الله وجهه c'est une spécificité qui n'est pas que pour علي بن أبي طالب quand on cite les compagnons pour tous les compagnons c'est valable de dire رضي الله عنه Certains awam, quand ils citent Ali ibn Abi Talib, ils lui donnent quelque chose de particulier en disant Karam Allah Wajah, mais Karam Allah Wajah, c'est valable quand tu le dis ou quand ils citent Ali ibn Abi Talib, c'est comme s'il était en défensive. Quant à Shia, l'imam Ali, eh ben, dit l'imam Abu Bakr, Siddiq, radiallahu anhu, dit l'imam Omar. Si tu donnes un attribut à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, tu le donnes aux autres compagnons. Et, l'Aqid al-Sunnah, c'est que les compagnons, radiallahu anhu, comme ils sont. Donc on dit Ali radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et on ne spécifie pas un attribut spécial à Ali ibn Abi Talib par rapport aux autres compagnons. Hein, on a de l'estime pour lui autant que pour les autres compagnons. Le meilleur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr Siddiq, après Omar, Khattab radiallahu anhu, après Uthman, après Ali, selon le khilafa. C'est l'aqidah de l'Al-Sunnah. Donc là-dessus, il faut faire attention parce que certains, quand ils disent, ils disent oui, Ali, radiallahu anhu, Karam al-Wajah, ou l'imam Ali, il lui donne des attributs autres que, il ne les donne pas à Abu Bakr Siddiq et Omar. Et ça, radiallahu anhu. Et ça, il faut faire attention. Il dit le hadith, l'an yadi yarbika Allah wa rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس donc dire le hadith c'est Allah Azza wa Jal guide à travers toi un homme c'est mieux que le meilleur des biens les biens qu'ils avaient avant c'était des biens qui étaient représentés en des animaux domestiques, et les meilleurs c'était Humr al-Na'am, et Akhiyarwa wa Ashraf wa Inda Ahliha, et donc le fait que quelqu'un il est guidé, tu as été la cause du fait qu'il soit sur le droit chemin et qu'il est revenu à la religion, c'est mieux que le meilleur des biens sur terre. Donc ce hadith, là on voit que Ibn al-Qayyim, il en tire l'importance de la science. Il y en a qui en tirent autre chose, l'importance de l'anti-science. Hein? Il ramène ce hadith pour ne pas étudier la science. Il te dit, puisque Allah Azza wa Jal, il a dit, « Ani hadiya bika Allahu rajulun wahidun, khayrun laka min humrin na'am » Donc il faut que tu cours pour faire l'idée de nas, et même il ne faut pas que tu apprennes, parce que si tu restes dans halaqat al-ilm, tu ne feras pas, tu vas pas faire da'wah. Et donc l'ilm, soit tu fais l'ilm, soit tu fais da'wah. Voilà. Et si tu fais l'ilm, tu fais pas de da'wah.
Et ça, c'est complètement faux. Ah, là, on a un texte. Le hadith, comme l'ont compris, c'est un hadith qui va dans le sens de l'importance de la science. C'est pas dans le sens inverse, comme le cite. Il y a des gens qui ont peut-être des bonnes intentions. Mais ta bonne intention, garde-la pour toi. Ne rentre pas, ne parle pas de religion sans savoir. Ne sais d'où, des fois, ils font l'aveugle, yani, complètement. Ils voient pas les textes. Si tu dis, bon, mon intention, elle est bonne, ce que je vais faire, c'est bien, ils foncent comme un bulldozer dans l'enfer. Subhanallah, al-Azim. Et ça, c'est grave, même, ils te ramènent des textes qui sont pas dans leur contexte, et ils expliquent le Coran comme il le veut. Après, tu vas, le chef, tu leur dis, oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous laissez des gens parler dans la religion sans connaissance? Ah, il dit, non, mais ça, c'est juste, yani, les nouveaux, c'est pas les nouveaux, ça, c'est une règle dans votre chemin. Vous donnez pas l'importance qu'il faut à la science. C'est pas comme ça que Salaf Salah nous a appris l'importance de la science. Il faut qu'on apprenne avant de propager le dîn. Si on n'a rien, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Quelqu'un, il vient, il veut transmettre. Tu lui dis, d'accord, qu'est-ce que tu transmets? J'ai rien. J'ai une bonne intention. Voilà. Il y en a, il ramène des hadiths. Il ne sait même pas ce qui est daif. Et quand je lui dis que ce hadith est daif, il a dit, attention, moi je l'ai lu sur le Kandahlaoui. Et il a dit, tu comprends ni le Kandahlaoui, ni tu sais ce que c'est le hadith. Ce que tu es en train de raconter là, ça là, c'est pas quelque chose de... C'est complètement faux. Tu es en train de donner une mauvaise image à l'islam. Subhanallah al-Azim. Bon, il y a des gens, ils sont tellement vides qu'ils acceptent Da'wah Ta'ak, c'est normal. Ils acceptent les témoins de je sais pas quoi, ils acceptent Da'wah Hadi, même des gens qui adorent le Bqarri, ils les suivent. Il y a des gens, ils font tout. Seulement le vide, il y est. C'est normal, il y a des gens qui suivent. Le vide, il est tel, l'ignorance, elle est telle, que l'Azawajal, si tu ne suis pas son chemin, tu n'adores pas l'Azawajal, il te fait adorer autre chose. Il te fait adorer des choses que l'Azawajal, tu vas les adorer parce que tu as refusé d'adorer l'Azawajal, donc il te fait adorer autre chose. Il te laisse le chemin de... Et c'est ce qu'on voit dans la réalité des gens. Et il y a des gens, ils sont là, du matin au soir, ce qu'on reçoit, l'héritage de nos salaires, il te dit oui. L'imam, il y en a certains, il m'a dit oui, mais l'imam Malik, il a fait aussi le khourouj. Subhanallah, al-Azim. C'est aberrant. C'est complètement... C'est un mensonge effarant, yani. Il y a des gens, ils vivent entre nous, et il ne fait que des démonstrations à travers cela, yani tout ça, tout ce qu'il a, il te dit, voilà, moi, le résultat, c'est le nombre, etc. Et il dévie cette nation de l'importance réelle qui est liée à ces textes, le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ça, il y a le danger. Comment tu veux expliquer le dîn autre que, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a laissé à ses envoyés, aux ulama qui étaient avant lui. Oui, c'est l'envoyé du prophète. Rabbi ufqna wa yakum al-khair. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.